Le Vatican a déploré le week-end dernier la réaction disproportionnée des forces de sécurité congolaises pour disperser la marche des catholiques du 31 décembre dernier. Dans une lettre, le nonce apostolique à Kinshasa estime probable qu'il y aura d'autres manifestations. Pour sa part, le gouvernement congolais a mis en garde les organisateurs contre toute récidive. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est la question du débat et nous en parlons avec professeur Bokabamba. Il est professeur à l'Université de Liège en Belgique, coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Bokabamba.
Oui, bonsoir aux auditeurs et auditrices, oui.
Étienne Vivien Kalongi, politologue et analyste indépendant. Il est chercheur en résolution non violente des conflits. Bonsoir, monsieur Étienne Vivien Kalongi.
Oui, bonsoir, mon frère, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Et Israël Moutala, journaliste, il est analyste politique et économique. Bonsoir, monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Nous devions avoir les laïcs catholiques dans cette émission, mais ils n'ont pas souhaité participer à ce débat. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Dans une note datée du 5 janvier 2018, le représentant du pape François en RDC a envoyé un mot de réconfort aux chrétiens catholiques victimes de la répression du 31 décembre 2017. Le nonce apostolique à Kinshasa a aussi confirmé la légalité du comité laïque de coordination CLC en sigle comme structure constituée canoniquement comme association privée et reconnue comme telle dans la diocèse de Kinshasa. D'autres détails avec Alain Irung.
Malheureusement, la réaction disproportionnée des forces de sécurité congolaises n'a pas respecté le caractère pacifique de cette manifestation, a écrit le nonce apostolique à Kinshasa, Luis Mariano Montemayor, dans une lettre aux ecclésiastiques congolais. Les autorités ont interdit pour appel et dispersé dimanche 31 décembre 2017 une marche des laïcs proche de l'église catholique qui demandait au président Joseph Kabila de s'engager publiquement à quitter le pouvoir. Ces événements ont fait au moins 5 morts d'après plusieurs sources. Le gouvernement affirme qu'il n'y a pas eu de morts en lien avec les manifestations du 31 décembre. Tenant compte de la popularité de la marche du 31 décembre 2017, il est fort probable que d'autres initiatives seront organisées dans les prochains mois, ajoute la lettre du nonce datée du 5 janvier. Vendredi dernier, le gouvernement a condamné fermement les événements survenus le 31 décembre dernier et a mis en garde les organisateurs contre toute récidive.
Merci à vous Alain Irung, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Le Vatican déplore la réaction disproportionnée des forces de sécurité congolaises pour disperser la marche des catholiques du 31 décembre dernier. Et le nonce apostolique à Kinshasa estime probable qu'il y aura d'autres manifestations pendant que le gouvernement met en garde les organisateurs contre toute récidive. Ces déclarations vous inspirent quoi, professeur Bob Kabamba?
Merci beaucoup pour cette question. Mais donc ici, il est important de pouvoir faire un petit rappel historique par rapport à la place de l'Église dans l'institution congolaise. Quand je dis dans l'institution congolaise, ça veut dire grosso modo la place qu'occupe l'Église catholique dans le contexte politique congolais et politico-social. Il faut bien se rendre compte que la colonisation, au moment de la colonisation, il y a eu, le colonisateur a fait un big deal. Ce big deal comprend trois pôles. Il y a un pôle qui concerne le pôle de l'administration et de l'État, c'est-à-dire grosso modo les forces de sécurité. Il y a un pôle qui concerne l'Église, il y a un pôle qui concerne l'économie. Et c'est à partir de ces trois pôles qui constitue ce big deal de la colonisation, qui fait asseoir l'État congolais, qui fait asseoir donc la colonisation belge au Congo. Et l'Église a toujours occupé une place importante et prépondérante, aussi bien au niveau de la colonisation, mais aussi après la colonisation. Et lorsque l'on parle après la colonisation, vous vous souvenez quand même qu'à l'époque de Mobutu a eu un mal parti avec l'Église catholique, et l'Église catholique, l'authenticité, conférence nationale, etc., où l'Église a toujours essayé de maintenir sa place comme acteur ou comme acteur vraiment important du contexte politique, social en RDC. Mais aussi, cette église a subi quand même beaucoup, entre guillemets, a perdu beaucoup de son influence avec l'évolution, notamment avec les églises de réveil, mais aussi d'autres religions qui ont menacé le monopole que cette église avait. Et de cette façon, l'église s'est retrouvée à un moment donné, l'église catholique, un peu en porte-à-faux avec ses différentes structures. Alors, mais ce qu'il y a à pouvoir bien comprendre, c'est que l'église a fait un think tank pour dire il est important de dire qu'il est important de pouvoir retrouver la place qui a toujours été la sienne, c'est-à-dire d'être un des piliers importants de la structuration de l'État du Congo. Et de ce fait, je pense que l'Église, en optant dans un premier temps cette optique de pouvoir revenir sur la scène, et la scène sur laquelle ils vont arriver à rebondir, c'est sur la scène, effectivement, la scène politique, et où elle fait valoir le droit canon, comme je l'explique tantôt, de manière très claire, et que si l'Église se positionne dans son think tank, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, grosso modo, elle veut reprendre sa place qui est sa place centrale dans la réflexion et dans l'avenir sociopolitique du pays, elle doit absolument se positionner clairement sur un terrain sur lequel les autres ne sont pas. Les autres églises ne sont pas sur ce terrain-là, et les musulmans et toutes les autres religions ne sont pas sur ce terrain-là. Et donc, l'église doit impérativement se positionner sur ce terrain, et en se positionnant sur ce terrain, elle espère retrouver la place qui a toujours été la sienne depuis la colonisation. Et de manière très claire, quand l'église prend cette option, vous devez savoir que le politique n'a pas envie de laisser que l'Église catholique reprenne la place qui était la sienne depuis toujours. Et il faut que le politique réagisse par rapport à la volonté de l'Église de reprendre sa place qui a toujours été la sienne depuis plusieurs années. Et la réaction du politique et de l'État, de manière générale, c'est de pouvoir contrecarrer donc le think big de l'Église catholique de reprendre sa place. Et cette façon de réagir, de dire si il y a d'autres manifestations qui vont effectivement faire ramener l'Église à sa place, l'État congolais, le politique congolais, va essayer de contrecarrer par des mesures. L'exemple pour vraiment montrer en quoi ce think tank est assez important pour l'Église, c'est que le 31 décembre, lorsque l'Église a décidé de pouvoir avec l'appui bien sûr du comité laïque, de pouvoir organiser ces manifestations. Et vous devez savoir que la plupart des gens ne sont pas allés dans les cultes protestants ou bien dans les cultes des églises de réveil. Et donc pendant tout un temps, on n'a parlé que de l'église catholique et pas des autres églises ni d'autres religions. Et donc, et pour ça, de manière très claire, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, l'État congolais n'a pas envie de laisser que l'Église reprenne cette place qui a toujours été la sienne depuis des années, comme je l'ai dit, et qui pousse l'État congolais à pouvoir réagir de cette façon-là. Oui, et il est même à parier que dans les prochaines semaines, et même dans les prochains jours, si le comité laïque réorganise d'autres manifestations en appui, bien sûr appuyées par l'Église, ça va vouloir dire que l'État congolais va être amené à pouvoir prendre des mesures. Malheureusement, des fois, c'est des mesures répressives qui amènent des décès d'hommes, et malheureusement, et avec mort d'homme, et ça complique un peu les choses. Je voudrais rappeler aussi que, si vous vous souvenez aussi, le 7 février, on a connu la même chose le 7 février 1992 à l'époque de Mobutu avec la conférence nationale, et grâce à cet événement, l'Église à cette époque-là a pu reprendre quand même une place importante dans la dynamique politique congolaise. Et que si la situation continue à être tendue, bloquée comme c'est le cas actuellement, il va de soi que l'Église aussi va continuer à se radicaliser,
laisser
entre guillemets, pour pouvoir reprendre la place qui a toujours été la sienne.
Merci, professeur. Étienne Vivien Kalonji, vous êtes politologue, analyste indépendant, vous êtes chercheur en résolution non violente des conflits. Vous venez suivre le professeur Bob Kalonji, Bob Kabamba, qui faisait ses rappels historiques en expliquant, n'est-ce pas, le fait que l'Église cherche à reprendre sa place qui était la sienne, n'est-ce pas, à l'époque de la colonisation. Et l'État, de sa part, cherche, n'est-ce pas, à empêcher l'Église à pouvoir reprendre cette influence. Comment vous expliquez, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, la situation qui a prévalu le 31 décembre dernier ici en RDC?
Oui, merci beaucoup, mon estimé compatriote Guy Maté. Bien que le professeur Bob Kamama ait retracé un peu l'historicité de l'Église catholique vis-à-vis de notre pays pendant la colonisation et après la colonisation, je ne partage pas totalement ses conclusions vis-à-vis du rôle que l'Église catholique est en train de jouer à cet instant ici dans notre pays. Le Vatican, l'Église catholique de notre pays ainsi que ses laïcs ne font qu'entrer dans la réalisation des missions assignées à l'Église en général, c'est-à-dire non seulement évangéliser les âmes, mais s'occuper aussi des autres aspects de la vie de l'homme, notamment la libération de l'homme des structures aliénantes et la réconciliation. À cet effet, cette mission est immano-divine et interhumaine. L'Église est donc appelée à servir l'humanité en la consolant, en l'encourageant, en l'assaisonnant et en l'éclairant. Donc, si nous devons tenir que l'Église est en train de chercher à réaliser une mission qui va tout simplement ici satisfaire ses intentions, c'est peut-être ne pas comprendre le rôle pour lequel les princes ou les ambassadeurs de notre Seigneur essayent de faire. Parce que leur mission ne consiste pas seulement à évangéliser les âmes, mais de s'occuper aussi du corps, de cette enveloppe charnelle qui porte l'esprit dont ils sont attachés à évangéliser. Voilà pourquoi lorsque cette enveloppe charnelle est butée à certain nombre de problèmes, les princes de l'Église doivent s'occuper aussi de cette enveloppe charnelle dont ils sont appelés à enseigner, à amener, à comprendre comment notre Seigneur attend des âmes, ce dont ils sont en train de faire sur la terre des hommes. Voilà pourquoi je ne partage pas totalement cette analyse et je m'en vais ici épouser la pensée d'un grand philosophe, un maître philosophe au Congo, un estimé aussi compatriote à l'instar de M. François Ndjeka, qui disait que c'est pendant les moments les plus sombres qu'on voit le mieux les étoiles, dit une sagesse populaire. Parce que les turbulences politiques qui secouent actuellement la RDC, notre pays, accompagnées des horreurs innombrables et des mystifications qui traversent la vérité, la désacralisation de la vie humaine, qui nous rapprochent chaque jour de la libération, de la bestialité, la profanation des lieux de culte qui indique que pour nous, plus rien n'est demeuré sacré, le vote par le Parlement de notre pays des lois qui ne sont pas l'expression de la volonté générale, le non-respect du serment prêté, de la parole donnée et de la signature apposée, la confiscation des droits et libertés fondamentales des citoyens, sans parler de la précarité de la vie de la majeure partie des Congolais, sont autant d'indices qui montrent que nous sommes sur le point d'atteindre un point de rupture qui va entraîner à la fois la fin d'un système
et
la survenue d'un autre.
Etienne Vivien Kalonji, si l'Église n'a fait que se conformer, n'est-ce pas, à sa mission évangélique, comment vous expliquez cette manière violente de la police de pouvoir étouffer la marche qui avait un caractère pacifique?
Oui, cette manière n'est que l'expression d'un pouvoir qui refuse toute expression populaire, qui refuse de se donner un discrédit vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, parce que nous nous imaginons que lorsqu'on s'est donné le choix d'accepter le système démocratique comme le système par excellence qui permet le mieux-être des personnes dans une société, on ne peut que recourir à l'acceptation de l'expression populaire qui n'est qu'une prise de parole collective par la population, parce que nous savons bien que le système politique fonctionne au moyen des désidératas qui sont présentés par la population. Lesquels désidératas doivent être normalement transformés par un gouvernement démocratique par des solutions positives qu'on appelle output positif. Mais dès lors que nous sommes devant un gouvernement qui refuse toute expression populaire, refuse que d'un pas que la population peut réaliser, nous disons c'est un gouvernement qui dirige le peuple par défi. C'est un gouvernement qui refuse à faire que la population entend ici en classé comme processus décisionnel pour réveiller leur conscience afin de pouvoir s'en approprier et réaliser les attentes de la population. Ces gouvernements qui gèrent par défi refusent d'écouter la population. Et là, nous ne sommes pas dans une démocratie. Parce que lorsque nous acceptons la démocratie ne se solde pas seulement par la tenue des élections. La démocratie se solde par l'expression des libertés des personnes qui sont consacrées dans notre constitution.
Etienne Vivien.
Et dès lors que ces choses ne sont pas réalisées, donc là nous sommes devant un gouvernement qui dirige par défi, qui refuse d'écouter les citoyens des peuples congolais, et c'est de cette manière-là que
Etienne
nous
entendons, Vivien,
nous voyons comment est-ce qu'on instrumentalise la qui est censée encadrer la population, de pouvoir encadrer les gens, de ne pas verser dans la violence.
Etienne Vivien Kalonji, s'il faut prendre l'aspect objectif, n'est-ce pas, de toutes ces marches qui étaient prévues, envisagées par les laïcs catholiques, on a comme l'impression que l'objectif de cette marche n'était pas bien défini. Il y en a qui disaient qu'ils allaient marcher pour que Kabila quitte immédiatement le pouvoir. Il y en a qui affirmaient que c'était pour l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y en a aussi qui disaient qu'il marchait parce que Kabila ne s'était pas prononcé sur son avenir politique tel qu'elle avait exigé les laïcs catholiques. Et à votre avis, pourquoi cette sorte de confusion sur l'objectif de cette marche?
Non, la confusion est entretenue par peut-être les médias pour pouvoir ou peut-être par le dire des décideurs politiques. Mais les objectifs ont été bien déterminés parce qu'il s'agissait ici d'abord premièrement de la prononciation du chef de l'État qui devait donner sa position sur l'échéance électorale à venir, et deuxièmement, sur justement, l'application de l'esprit et de la lettre des accords de Saint-Sylvestre, qui, dans sa rubrique de la décrispation politique, incite à ce que le pouvoir puisse ici faire prévaloir, puisse montrer son bon sens de pouvoir appliquer ces dispositions dont ils ont signé librement. Donc, décrisper la situation politique, c'est de libérer tous les prisonniers politiques qui sont dans la prison de Makala et accepter aussi des exilés politiques comme Moïse Katumbi, qui s'est déclaré déjà individuellement qu'il était aussi prêt à compétir sur les échéances électorales présidentielles. C'est de cette manière-là que les princes de l'Église ont compris, quand bien même qu'il y a la CENSA qui s'est réalisée au détriment de la volonté collective de ceux qui ont signé cet accord, quand bien même qu'il y a un premier ministre qui est ici d'un débossage au sein de l'opposition, maintenant il s'attelle sur une dernière rubrique qui est celle de la décrispation politique, parce qu'il faut qu'on se le dise, les leaders d'opinion qui sont encore en prison,
merci,
dont les procès ont été masqués de tous bords, l'Église est en train de plaider pour que cette option-là, signée dans l'accord de Saint-Sylvestre, soit appliquée.
Merci,
et moi, je ne vois pas ici, et l'objectif que vous venez de citer là était celui de l'opposition, qui cherchait à faire qu'il y ait une transition sans Kabila, mais les laïcs qui ont organisé cette action n'étaient pas de cette partie-là.
Merci,
pour
Etienne Vivien
Kalonji. Le départ du chef de l'État.
Merci, Israël Moutala, journaliste, vous êtes analyste politique économique. Marche initiée par les laïcs catholiques étouffée, n'est-ce pas, violemment. Comment vous analysez cela?
J'analyse ça comme l'expression d'une non-interrogation de principes démocratiques. Quels que soient les objectifs multiples ou pas d'une marche, aucune marche ne devait donner lieu à des violences gratuites, ne devait donner lieu surtout à des morts inutiles. Donc, pour moi, la première leçon, c'est que je m'interroge sur la nature véritable du régime. Nous sommes dans un régime apparemment de nom démocratique, mais dans ses sous-bassements, dans ses fondamentaux, dans sa structuration, dans son essence, nous sommes dans un régime qui n'est pas démocratique. Parce que les instruments de l'État, que sont notamment les forces de sécurité, toutes les forces de sécurité, n'ont pas encore fait leur mutation en termes de mentalité, en termes de logiciel de pensée. Donc pour eux, il s'agit avant tout de protéger un individu, de protéger un intérêt. Donc même quand ils reçoivent des ordres manifestement illégaux, ils exécutent bêtement. Et donc, ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été coachés à encadrer une liberté publique fondamentale qui est celle de manifester. Donc, le problème, c'est celui-là. Une liberté aussi fondamentale que la liberté de manifester doit-elle donner lieu à mort d'homme? C'est ça la question fondamentale. Et donc, et là, il y a eu mort d'homme, il y a eu la malheureuse Makaya qui a attrapé une balle alors qu'elle avait
qui est entre la vie et la mort.
Qui est entre la vie et la mort alors qu'elle avait le dos tourné. Ça veut dire que elle a reçu d'abord une balle réelle qui est entrée par l'oreille et qui est ressortie par la bouche. Donc elle ne représentait aucun danger. Il ne s'agissait pas d'une balle perdue comme le prétendent les forces entre guillemets de sécurité. Il s'agit bel et bien d'un soldat ou d'un policier qui a tiré dans la foule à mi-hauteur et c'est dommage. Donc, Israël, comme les soins tirés,
cette répression a provoqué, comme vous le faites maintenant, de nombreuses réactions, notamment celle du cardinal Mosengo, qui l'a qualifié de jamais vu et de la limite du tolérable. Il a insisté sur le renouvellement de la classe dirigeante en précisant que les médiocres doivent dégager, que les gens capables dirigent le pays. Des propos qui ont été jugés injuste, injurieux et blessant par la majorité présidentielle. Comment vous expliquez cette escalade dans le langage des uns des autres?
Non, enfin, moi je pense que à un moment, nous sommes dans un pays, nous voyons un pays promu à un bel avenir qui se meurt sous nos yeux. Il y a pas assez de gens courageux pour dénoncer le mal, mais à un moment ça doit s'arrêter.
Vous comprenez la réaction du cardinal Mosengo.
On dit très bien que le mal prospère parce que les gens de bien se taisent. L'indifférence des gens courageux fait en sorte que le mal prospère. Nous avons une société qui se meurt. Et donc moi je suis aujourd'hui tout à fait en phase avec les propos du cardinal. Et donc quand il a parlé de médiocrité, il s'agit d'un constat. Et d'ailleurs je trouve qu'il a été moins sévère dans la cotation. Moi, je serais un cran en dessous en disant qu'il s'agit de d'une cote mauvaise. Mais, écoutez, vous m'avez demandé les leçons. La première leçon, on n'a pas une police républicaine. On n'a pas une armée citoyenne. On n'a pas de force de sécurité apolitique. Ça saute aux yeux. Donc, comment est-ce que vous pouvez concevoir que des forces entre guillemets de sécurité puisse pénétrer et perturber le culte, parce que à cet instant précis il n'y avait pas encore perturbation de l'ordre public et tout ça. Et donc quand les gens sont en train de suivre la messe, de participer à une messe, mais vous les laissez terminer l'office, vous n'entrez pas pour perturber, vous ne lancez pas des gaz lacrymogènes. Mais ce rapport aux choses sacrées aussi léger, aussi désinvolte, mais ne peut que choquer toute âme épris de bon sens. Donc, une république se bâtit autour des valeurs. Alors, vous avez un pouvoir qui commet des fautes parce que l'essence du pouvoir, toutes les décisions sont prises sous une peur, parce que le pouvoir n'a pas été en mesure d'affronter son avenir, de poser les bases, de clarifier son horizon politique. Merci. Et donc, vous avez toute une nation qui convulse à cause, justement, des hommes d'État qui se comportent en politiciens au détriment de l'intérêt général.
Merci.
Voilà à peu près ma...
Professeur Bob Kopamba, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Kisangani, en province de la Tchopo.
Ugane Mungwajue, depuis Kisangani, province de la Tchopo. L'église catholique était loue en peau d'agneau, autant qu'elle a valablement servi la colonisation, autant qu'elle continue à défendre les intérêts totalement étrangers à la RDC. Si c'était un posant parcours le monde pour un soutien étranger, l'église fait les jeux du Vatican comme tout étant et a des intérêts tout particuliers. Rien n'est donc étonnant que les nonces apostoliques et ambassadeurs du Vatican apportent ce soutien aux manifestations. Aussi longtemps que ces prélats auront des injonctions extérieures, ils seront une épine pour la marche du pays. Autant dire qu'ils doivent être tenus à l'air. Si l'on peut finir par admettre qu'ils sont religieux, il sera naïf de notre part de minorer la dimension politique au profit du Vatican. L'Église catholique risque encore d'accentuer la crise et de retarder davantage les processus électoraux déjà en cours avec ce genre de propos, car toutes manifestations n'aboutiront à rien que l'écoulement du sang.
Professeur Bob Kabamba.
Merci, c'est une question très intéressante. Il faut bien se rendre compte qu'il faut bien connaître de quoi on parle. Quand on parle effectivement du Vatican, le Vatican effectivement c'est un État qui a aussi des intérêts, comme tous les pays étrangers, comme tous les pays ont toujours des intérêts. Et les relations internationales sont toujours basées sur les notions d'intérêt. Mais là, le Vatican a la particularité d'être aussi le chef de l'Église catholique. Alors il y a ces deux dimensions-là qui interviennent. Mais ce qu'il faut, si vous savoir, c'est que l'État, donc du Vatican, qui est un État, qui a des intérêts, mais il y a aussi les questions liées à l'institution Église catholique. L'institution Église catholique a aussi des intérêts, a aussi ses dynamiques, a aussi ses prérogatives qui sont de manière très claire, très définie. Clairement, l'Église défend ses positions. Ça, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait normal que l'Église puisse vraiment prévaloir ses intérêts et de pouvoir les défendre. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le premier cas que l'on connaît au Congo, où effectivement l'Église intervient de manière directe sur un débat, non, en excluant pas effectivement tous les concepts liés à la dimension sociopolitique de l'intervention de l'Église dans la société. Et ici clairement, c'est que le risque qu'il y a, c'est que nous puissions aller entre l'affrontement, quand je parle d'affrontement, c'est-à-dire entre d'une part l'État qui est phagocyté par la majorité présidentielle et par le politicien congolais, et d'autre part, l'Église. Ça s'est déjà vu dans d'autres pays. Et dans plusieurs pays, malheureusement, c'est souvent l'Église qui a gagné. Et l'Église a gagné pourquoi? Parce que tout simplement, l'Église, il y a la dimension effectivement étatique liée au Vatican, mais il y a aussi la dimension religieuse qui intervient dans cette logique. Je ne vais pas citer tous les pays, il y en a beaucoup sur lesquels beaucoup de pays se sont cassés les dents quand ils ont commencé à affronter l'Église catholique sous cette dimension-là. De manière très claire, c'est que la crainte qu'il y a, c'est que l'on s'achemine vers un affrontement entre l'Église et l'État phagocyté par la majorité présidentielle. Et si on s'achemine vers ça, donc ça veut dire grosso modo que nous allons aller de manifestation en manifestation, et ça ne sera pas des manifestations simplement, il pourrait y avoir d'autres actions qui vont chaque fois ramener une répression, et la répression comme elle est toujours disproportionnée de la part de l'État congolais, c'est-à-dire que l'on va arriver à avoir chaque fois une disproportion par rapport à la réaction de l'État vis-à-vis de l'Église, et que nous allons aller d'exaction en exaction. Et en allant dans cette dynamique-là, malheureusement ou heureusement pour l'État, pour l'État congolais et heureusement pour l'Église catholique, dans cette dimension, c'est l'Église qui va sortir gagnante dans cette guerre, et c'est l'État congolais, phagocyté par la majorité, professeur, qui sera perdante.
Professeur, on sent une certaine détermination à travers les discours que tiennent, n'est-ce pas, la majorité présidentielle ainsi que l'Église catholique. Les nonces apostoliques à Kinshasa estiment probable qu'il y aura d'autres manifestations, et le cardinal Mosengo renchérit en affirmant « Nous parlerons à temps et à contre-temps, advienne que pourra ». Et pendant ce temps, le gouvernement met en garde les organisateurs contre toute récidive. Sur quoi pourrait, n'est-ce pas, déboucher cette crise entre l'Église catholique et le gouvernement? Vous avez parlé d'un affrontement. Et cet affrontement pourrait se traduire par quoi?
La suite, parce qu'il faut, toujours relire l'histoire. Il faut toujours relire l'histoire et voir un peu par rapport à d'autres pays et ce qui s'est passé dans beaucoup de pays lorsqu'il y a eu une dynamique de manière claire, un affrontement entre les deux États. Généralement, l'Église reste toujours l'Église. L'Église reste toujours au milieu du village et l'Église reste toujours l'institution, une des institutions les plus importantes dans les sociétés. Malheureusement, l'État qui est phagocyté par la majorité présidentielle pourrait passer, être remplacé par autre chose qui sera plus bienveillant vis-à-vis de l'Église. Et ça, malheureusement, au plus où l'État congolais va mener une politique de répression vis-à-vis de l'Église, au plus l'Église va reprendre sa place, et au plus l'Église va se renforcer, et au plus l'Église va être un adversaire, puisque l'opposition politique n'existe, je mets entre guillemets, est pratiquement absente sur la scène des revendications, une ère des revendications, on va dire, médiatiques, il n'y a plus d'actions qui sont portées par la population congolaise, il n'y a plus d'actions qui sont sous des mots d'ordre de l'opposition, et donc l'Église va reprendre ce rôle-là, et malheureusement, pour l'État congolais, phagocyté par la majorité, l'Église catholique, dans la plupart des cas, dans plusieurs contextes, lorsqu'on s'affronte aux religieux, les religieux finissent toujours là à l'emporter. J'ai pas cité la liste, vous pouvez prendre la liste de toute une série de conflits qu'il y a eu où l'Église catholique a été affrontée vis-à-vis des États. Vous pouvez prendre les religions musulmanes où il y a eu la religion musulmane qui s'est affrontée à l'État. On connaît les résultats qu'il y a en Libye, vous savez les résultats qu'il y a en Syrie, etc. Et donc clairement, dans cette dynamique-là, je ne pense pas que l'État congolais, phagocyté par la majorité présidentielle, sortira vainqueur d'un affrontement frontal avec l'Église catholique.
Étienne Vivien-Kalonji, une question pour vous, elle vient de Kinshasa.
John Kamangou, depuis la ville de Kinshasa. Étant une loi mère, la constitution dont le respect s'impose à tous exige l'égalité de tous les Congolais et une égale protection devant la loi en son article 12. En son article 26, elle garantit la liberté de manifestation. Et à l'article 28, elle insiste sur la non-exécution d'un ordre manifestement illégal. C'est ici où je qualifie d'illégal cette position du gouvernement qui, en mettant en garde contre toute récidive, qualifie tacitement d'un crime la marche des laïcs catholiques, viole en même temps ses articles 12 et 28 et concourt à l'instauration d'une voix unique car un son de cloche contraire dérange la MP et doit être étouffé.
Étienne Vivien-Kalonji.
Oui, je partage totalement le point de vue de mon compatriote qui a bien épinglé les dispositions constitutionnelles qui ici consacrent les libertés d'expression et qui permettent à ce que les citoyens puissent participer à la gestion de la chose publique. Parce que lorsqu'au lendemain du fauchage d'une dizaine de vies lors des manifestations, des marches pacifiques des chrétiens, par ceux-là même qui sont censés les protéger, et que les officiels élèvent des voix pour affirmer urbi et orbi qu'il n'y a eu aucune perte en vies humaines, c'est que le pays a atteint le point zéro de toute humanité. Voilà pourquoi je me rabats ici sur la technique de la prise de la parole dans la stratégie de l'action non-violente dont l'Église s'est donné le luxe de soutenir les citoyens congolais dont ils ont la mission d'évangéliser les armes. Parce que le premier temps d'une action non-violente est de prendre la parole afin de dénoncer l'inacceptable. La résignation est faite essentiellement de silence et la première complicité avec l'injustice est de se taire devant elle. Dès lors, la première action de non-coopération avec une injustice est de rompre avec le silence et en prenant la parole sur la place publique. Et cette parole-là que les gens prennent collectivement dans la rue, elle doit être non-violente. Voilà pourquoi ce n'est pas une nouveauté que l'Église puisse prendre position sur les situations des déchets ou les souffrances que ses adeptes sont en train de connaître du jour le jour. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pasteurs côtoient les citoyens au jour le jour. Ils vivent la misère qui se lise dans le chef de vie de tous les citoyens au jour le jour. Et comme un adage français dit « ventre creux n'a point d'oreille », je ne vois aucun évangile qui sera bien appréhendé par une population qui est affamée. Et raison pour laquelle l'Église a eu cette mission-là traditionnelle, c'est non seulement évangéliser les âmes, mais de s'occuper aussi de cette enveloppe charnelle qui est censée recevoir l'évangile spirituel. Et voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une nouveauté, parce qu'en 1986, il a fallu que le cardinal Sin des Philippines puisse nécessairement permettre, au travers de sa prise de position, une révolution aux Philippines lorsque Mme Corina Aquino avait gagné les élections et que le président Marco avait refusé d'accepter que son challenger avait réellement remporté les élections. Il a fallu que le cardinal Sin puisse prendre position et beaucoup de clergés et les laïcs sont rangés auprès de militaires qui ont fait leur allégeance auprès de Mme Aquino, qui sont servis de boucliers humains et la chose a pu changer en 1986. Et nous-mêmes aussi, aujourd'hui, qui vous parlons de ces choses, de l'action non-violente, nous avons été instruits par les jésuites qui ont consacré plusieurs théories sur la stratégie de la lutte non-violente, notamment Jean-Marie Miller, Jacques Semelin, Christian Meillon, François Vaillant, ainsi que d'autres. Donc, ce n'est pas une histoire propre au Congo,
mais c'est une histoire générale parce que l'Église a pour mission de s'occuper des citoyens dont ils sont censés évangéliser.
Oui, donc vous dites que ce n'est pas le propre de la RDC. Vous évoquez cette technique de la prise de la parole afin de dénoncer l'inacceptable, mais vous voyez comment la majorité, en fait l'État congolais, réagit négativement par rapport à ces initiatives de l'Église catholique. Et là, nous sommes dans une véritable crise entre l'Église catholique et l'État congolais. Vous avez suivi le prof Bob Kabamba qui pense que cela pourrait, n'est-ce pas, déboucher sur un affrontement entre les deux des entités et qu'il rappelle que chaque fois quand il y a affrontement entre les deux entités, et c'est toujours l'Église catholique qui sort vainqueur. Comment vous réagissez à cela?
Certainement parce que l'Église est non-violente. Elle est non-violente. Dans ses actions, même s'il devait y avoir affrontement, ce n'est pas un affrontement dans la stratégie de la violence. Parce que nous sommes habitués par une culture de la violence et que nous ne savons pas qu'il y a une autre culture contraire qui ici amène, nettement, et travaille sur la conscientisation, qui travaille sur l'humanisation de l'homme, afin que l'homme comprenne effectivement qu'on ne peut pas toujours recourir à la violence pour essayer de faire prévaloir ses intérêts. Je vois que le pouvoir est en train de défendre ce qui est de ses intérêts, mais la majeure partie de notre population, nous l'avons vu, encadrée par des relais locaux de chaque paroisse. Ce qui restait à l'Église, que nous voulons ici apporter notre petite contribution, est celle de savoir que lorsque nous avons des relais locaux comme les paroisses, comme ils ont eu à le faire, il devait y avoir ici la constitution d'un corps de volontaires capables ici de se sacrifier devant l'État, de pouvoir ici donner leur personne physique vis-à-vis de la résistance pour que ces choses puissent aller de l'avant.
Merci.
Et le professeur Kabamba, il a déterminé là, il a raison, parce que devant la vérité, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître.
Merci. Merci Israël Moutala. Une réflexion pour vous, elle vient de Bukavu, Sud Kivu.
Amos Bissimas de Bukavu, province du Sud Kivu. En analysant la manière dont la marche organisée par l'Église catholique a été violemment réprimée par les militaires et policiers qui ont oublié que les victimes ne se font pas la guerre entre elles, les dégâts matériels et les victimes enregistrées, la réaction du Vatican va son faisant droit. Aucune raison ne peut pousser un gouvernement responsable à réprimer son peuple avec des lourdes armes dans une manifestation purement pacifique jusqu'à profaner les églises, chose qu'on n'a pas vécue même à l'époque d'hier, serait de triste mémoire. Vu la tension qui règne déjà entre l'Église catholique, qui est une force au pays, et le pouvoir en place, si l'une des parties concernées ne met pas un peu d'eau dans son vin, le lendemain risque d'être sombre et on va ainsi hypothéquer l'aboutissement heureux du processus électoral en RDC, pourtant trop attendu par plus d'un Congolais en guise de sauver notre patrie actuellement en danger par manque de dirigeants responsables du sommet à la base.
Israël Moutala.
Je partage les inquiétudes de ce compatriote. Absolument, hélas, le rôle d'un État, c'est de dégager un avenir serein, rassurant, un avenir de paix, de joie, de tranquillité à sa population. C'est cette perspective que doit nous offrir l'État. Hélas, nous n'en prenons pas le chemin et je le déplore. Bon, face à la brutalité de la répression, face à l'innommable, donc le Vatican n'avait pas d'autre choix que de ne pas réagir et de souligner la disproportionnalité de la réaction de forces de l'ordre. Et tout ça souligne que nous sommes un État faux. Le cardinal a parlé du mensonge systémique et tout ça. Effectivement, en principe, pour de telles manifestations, quand on les encadre, on doit les encadrer avec des armes non létales. Mais on a vu de forces combattantes. En tout cas,
on se pose même la question de savoir comment la police avait les moyens de se déployer pour empêcher les différentes marches, mais n'avait pas la capacité, n'est-ce pas, d'encadrer ces marches.
Absolument. Donc, et c'est ça le problème. Et je dis justement ça, la mystification. Les forces combattantes qu'on a vues déployer ici, elles nous seront plus utiles dans le Kivu, par exemple, pour mettre fin au phénomène de groupes armés, voilà.
Et Israël, comment gérer l'après-marche? Il y a eu des morts, des blessés, des personnes interpellées. Qui va s'occuper des familles éprouvées? Qui va s'occuper de ces personnes blessées, des personnes éplorées?
Bon, l'Église aura une pensée pieuse le vendredi lors d'une messe. L'État est en train d'essayer de récupérer une situation qui n'est plus récupérable en essayant de prendre en charge les obsèques des victimes. Elle a nié d'abord dans un premier temps qu'il n'y avait aucune victime par rapport à cette marche, mais en même temps elle dit qu'elle va prendre toutes les victimes, que ce soit des inondations ou celles du 31, bref, et tout ça. Mais le problème, c'est dire que c'est un travail mémoriel. Pourquoi sont-ils morts? Pourquoi dans notre pays l'histoire doit-il bégayer? Pourquoi aujourd'hui encore l'Église est face à l'État? Pourquoi? Pourquoi l'État ne tient-il pas ses promesses, connaissant le passé troublé qui est le nôtre? Pourquoi l'État ne veut pas faire un bond qualitatif et offrir une perspective de paix à sa population? N'y a-t-il pas eu assez de morts? N'y a-t-il pas eu assez de sang versé? Enfin, moi, c'est des questions qui me dépassent. Oui, on ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'on aime tellement le pays, qu'on est le seul, qu'on a la passion du Congo, et soumettre le pays à de telles crises.
Israël, la marche a été étouffée, mais est-ce qu'on peut dire que, bon, en dépit du fait qu'elle a été étouffée, cette marche n'a pas eu d'impact sur les processus politiques en RDC?
Aussi, pour l'instant, voilà, je pense que... donc, on a maintenant en face l'Église catholique qui est déterminée à jouer un rôle important pour remettre le pays sur le rail, et c'est son droit, parce que l'Église qui n'est pas du monde est dans le monde. Et donc aujourd'hui, par exemple pour Kimwenza là-bas, où il y a beaucoup de couvents, il y a des écoles catholiques, la route est coupée, l'Église est affectée, les charges sont multipliées, et donc il y a tout ça. Donc les décisions de gouvernance, les décisions de l'État impactent l'Église, impactent les fidèles. Et donc aujourd'hui, l'Église est dans son rôle de dire trop c'est trop, il y a lieu de recadrer les choses.
Merci professeur Boukama. Mais nous allons conclure. Quel impact cette situation pourrait avoir sur le processus politique en RDC?
Mais l'impact, il est important. L'impact, il est trop grand. Parce que pour l'instant, on est encore à court terme. On ne mesure pas encore les effets. Et je pense que les effets vont être prises. Les effets de cette manifestation vont se manifester dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que l'Union européenne ou les États-Unis vont encore prendre des sanctions contre les autorités congolaises par rapport à la marche, et ça va encore radicaliser du côté du gouvernement congolais vis-à-vis de l'Église. Nous allons aller vers une radicalité, et cette radicalité n'est pas bon en termes de victimes des populations civiles.
Merci professeur. Étienne Vivien Kalongi, votre conclusion.
Oui, tous les observateurs attentifs de la situation du Congo savent et affirment que la RDC se trouve à un tournant important de son histoire. Que les Congolais gardent espoir et ne lâchent pas les cordons de la lutte, mais méditent sur les cinq sagesses ci-après. 1. Les avions décollent toujours face au vent. L'arbre ne pousse pas si la graine ne meurt dans le sol. La vie sort de la mort. La croissance passe par la lutte et la souffrance. Quand la détresse est à son comble, le secours de Dieu est plus proche de vous.
Merci Israël Moutala. Votre conclusion?
Mon conclusion, c'est que les hommes d'église ont toujours joué un rôle important dans l'histoire de leur pays. Je pense à Desmond Tutu pour le combat qu'il a effectué en Afrique du Sud. Je pense au pasteur Martin Luther King pour l'avancement des droits civils et politiques de Noirs aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi Monseigneur Moussengo ne peut pas jouer un rôle éminent quand il pense que sa société dans laquelle la société congolaise est en danger. Et donc il appartient, l'Église a le rôle, a le devoir moral de prendre position par rapport aux questions cruciales de l'avenir d'une nation. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui l'empêcher. Pour qu'on n'arrive pas à cette confrontation, j'aimerais que le pouvoir finalement entende raison après ces morts.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Ezekiel Diakala qui était à la technique, à Alain Héron qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.